24 août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Coligny voudrait déclencher une guerre contre l'Espagne en attaquant la Flandre espagnole. Il espère ainsi trouver un ennemi commun à la France, l'Angleterre et tous les pays qui voudront bien s'y joindre. Il a presque gagné l'accord de Charles IX. Presque. Le 10 août 1572, une réunion se tient en présence du roi, de la reine, de conseillers et de Coligny. Ordre du jour, la guerre en Flandre. Il n'en démord pas, Coligny. Il la veut. Il ne l'aura pas. Le roi dit non. Il est furieux, Coligny. Furieux. Il ferait mieux de profiter un peu de la vie, Gaspard, qui atteint 53 ans. En effet, Catherine en a assez. L'amiral a de nouveau tenté sa chance auprès de Charles IX, qui n'a pas dit non. Pour les Flandres. Elle décide que, finalement, si Coligny disparaissait, ce ne serait pas un mal pour la paix. Et après s'en être confié à la duchesse de Nemours, femme d'Henri de Guise, chef des catholiques, elle charge un nommé Maurevers d'accomplir la besogne. Le 22 août 1572, Coligny sort du conseil qui s'est tenu au Louvre avec Charles IX. L'amiral sent qu'il grignote peu à peu l'accord du roi pour les Flandres. Il est heureux et s'apprête à regagner son domicile, l'hôtel de Rochefort, rue de Béthisy, aujourd'hui rue de Rivoli. Soudain, retentit un coup d'arquebuse. C'est Maurevers, l'homme de main de Catherine. Et cet homme de main ne réussit qu'à emporter l'index droit du vieux Gaspard et à lui blesser le bras gauche. On reconduit Coligny chez lui. Qui arrive en urgence avec notre esprit contemporain du gyrophare? Ambroise Paré, toujours prêt, père de la chirurgie moderne qui inventa la ligature des artères au siège de Damvilliers en 1552. Ayant examiné les blessures de Coligny, il rassure tout le monde, ce n'est rien. Coligny n'a aucune inquiétude à avoir pour sa vie. Et pourtant, son index en moins, il est à deux doigts de la mort. Catherine a peur. Elle a peur et elle est seule. Depuis le mariage d'Henri de Navarre et de sa fille, mais surtout depuis la tentative d'assassinat de Coligny, les protestants n'ont cessé de s'échauffer l'esprit dans l'objectif d'une revanche. Et ils le font d'autant plus volontiers que le roi Charles IX lui-même a promis de tout faire pour châtier les auteurs de ce crime raté. Ce qu'il ignore, Charles IX, c'est que c'est Catherine, sa mère, qu'il devrait châtier s'il tenait sa promesse, puisque c'est elle l'instigatrice de toute l'affaire. Mais il n'en sait rien. Personne ne l'en a averti. Le 23 août 1572 au soir, Catherine est saisie de panique. Les protestants ne vont pas manquer de connaître la vérité. Ils vont se ruer sur le Louvre, tuer les catholiques, la tuer, tuer ses enfants. Un carnage se prépare, elle en est sûre. Que faire? Elle rassemble Henri d'Anjou, Henri de Guise, le duc de Nevers et quelques autres et leur fait part du projet suivant. Il faudrait tuer les chefs protestants au plus vite, et même dans la nuit qui vient. Le plus dur est de convaincre le roi. Comment lui faire accepter d'ordonner la mort de celui qu'il appelle son presque père, l'amiral Gaspard de Coligny? On dépêche alors, auprès de Charles IX, dans son cabinet, à 9h du soir, Albert de Gondi, comte de Retz. Et il dit tout, Gondi. Il apprend à Charles que c'est sa mère qui a voulu tuer Coligny. Mais il faut que Coligny meure, parce que le royaume, et puis sa mère aimante, et puis la religion catholique. Il accomplit si bien son rôle que lorsque Catherine fait son entrée dans la pièce où ils se tiennent, Charles, qui n'a pas fait de crise nerveuse comme on le craignait, s'écrie
« Eh bien, par la mort Dieu, qu'on les tue, mais qu'on les tue tous, qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. »
Qu'on les tue tous ? Catherine n'en demandait pas tant. Elle appelle dans ses appartements Henri de Guise et les siens. On dresse une liste de noms. Catherine en avance 4 ou 5, pas plus. Et comme on sait que les protestants sont nombreux et bien armés, on décide de faire appel aux milices parisiennes et aux bourgeois. Le « tuez-les tous » commence à circuler, répandu par on ne sait trop qui. Cet ordre d'un roi fragile psychologiquement se répercute dans les cerveaux de ceux qui n'attendaient que ces mots pour supprimer, certes, des huguenots, mais surtout des concurrents, des gêneurs, pour hâter des héritages, pour se venger, bref, pour conduire la navrante sarabande de l'homme redevenu bête. Le prévôt de Paris a décidé que l'opération commencerait 1h30 avant le jour. Le tocsin sera sonné et donnera le signal du massacre. Les maisons huguenotes ont été marquées d'une croix. À 4h du matin, le 24 août 1572, Henri de Guise et ses hommes frappent à la porte de l'hôtel de l'amiral de Coligny. La porte est ouverte par un gentilhomme qui est poignardé. Les exécuteurs montent à l'étage, frappent à mort l'amiral Gaspard de Coligny qui s'écrie en voyant la trogne rouge de son exécuteur
« Encore, si c'était un homme, c'est un goujat !»
Demeuré en bas, Henri de Guise demande à voir le cadavre. Ses hommes le font basculer par la fenêtre et il s'écrase aux pieds d'Henri de Guise qui donne sur le visage du vieillard un coup de talon. « Attention, Henri, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse un jour. » On lui coupe la tête. Le cadavre est ensuite découpé en morceaux par une populace déchaînée. Le tronc est emporté et pendu au gibet de Montfaucon. Le massacre est commencé. Bientôt le sang coule dans les rues, comme si une averse rouge venait de s'y abattre. Des scènes monstrueuses se déroulent. Une jeune fille qui s'est jetée par la fenêtre, se cassant une jambe, tente de se cacher dans un grenier. Elle est rattrapée par les assassins, qui lui coupent les mains pour lui prendre ses bracelets d'or. Un peu plus tard, elle finit à la broche d'un rôtisseur. Les premiers massacrés ont été les orfèvres. En quelques instants, leurs magasins et échoppes ont été pillés. Des femmes qui tentent de se rattraper au parapet des ponts sont achevées à coups de pierre. Des enfants sont baignés dans le sang de leurs parents. Les femmes enceintes sont mutilées, puis noyées. Les vieillards passés au fil de l'épée. Des charrettes pleines de cadavres charrient vers la Seine, leur chargement de chair encore tiède. Des êtres tirés du lit, nus, ensanglantés, des nourrissons, des jeunes filles et des jeunes hommes, des vieillards.
Matin de noces. La nuit du 24 août, Margot, la jeune épouse, est allée rejoindre au lit Henri de Navarre, qui est entouré d'une quarantaine de gentilshommes de sa suite. Elle ne sait rien de ce qui se trame. Au petit jour, Henri se lève et s'en va jouer au jeu de paume, l'ancêtre du tennis. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvre et un homme en sang apparaît. Il se jette sur elle et implore sa protection. Il s'agit du comte de Léran, un protestant que poursuivent pour l'achever les catholiques surexcités. Le capitaine de Nançay a déjà levé sa dague, mais il n'ira pas plus loin. Margot est reine de Navarre, fille de Catherine de Médicis. Dans un état de frayeur indescriptible, elle se lève et emmène Léran auprès du roi, demandant sa clémence. Comme matin de noces, on a vu mieux.
Les gentilshommes protestants sont amenés dans un couloir du Louvre. Ils attendent. On les pousse vers la sortie. Des soldats suisses et ivres les attendent et les embrochent sur leurs piques. Henri de Navarre et Henri de Condé sont épargnés. Ce dernier, menacé par Charles IX lui-même, qui a levé son poignard pour l'abattre, est sauvé grâce à Catherine de Médicis qui s'interpose. Elle préfère conserver des protestants qui peuvent se retrouver à la tête du royaume plutôt que de laisser les mains totalement libres aux Guises, ces extrémistes enragés. 5 jours durant, les pires violences, les pires atrocités vont être commises, même si le roi Charles IX, qui semble sortir d'une crise de délire, se rend compte de l'horreur qu'il a déclenchée et appelle au calme sa ville qui n'est plus qu'une plaie.
Miracle ! Une aubépine a refleuri au cimetière des Innocents.
Au lendemain du 24 août 1572, le bras des massacreurs commence à faiblir. Soudain, une rumeur folle se met à courir. On a vu une aubépine morte refleurir au cimetière des Innocents. C'est un miracle ? Un signe que Dieu approuve ce que font les catholiques? Il faut continuer à tuer encore et sans cesse les hérétiques. Le massacre repart. Pourtant, certains curieux veulent approcher l'aubépine miraculeuse. Impossible. Elle est gardée par plusieurs rangs de soldats agressifs. Tellement bien gardée qu'elle n'existe que dans la rumeur. Lancée par qui? On se le demande.
Pourtant, ce n'est pas l'ordre d'apaisement qui arrive dans les villes de province, mais le premier.
Tuez-les tous!
La folie meurtrière atteint Orléans et Bourges le 26 août 1572. Angers et Saumur les 28 et 29. Lyon le 31. Troyes le 4 septembre. Rouen du 17 au 20 septembre. Bordeaux et Toulouse le 3 octobre. Nantes est épargnée grâce à sa municipalité qui refuse d'organiser quelque crime que ce soit. Le bilan de cette saison de Saint-Barthélemy est terrible. Plus de 20 000 morts dans la France entière, sans compter ceux que la Seine ou d'autres cours d'eau en province ont emportés vers l'oubli. À Rome, le pape se réjouit de tous ces événements. Il fait chanter un Te Deum dans sa chapelle. Au plus fort du massacre, Charles IX, écumant de rage, s'est adressé à Henri de Navarre en lui disant
« La mort ou la messe ?»
Évidemment, Henri pas si fou avait répondu
« La messe !»
Le 28 septembre 1572, un mois après la tuerie, il confirme son abjuration. Le voilà redevenu catholique, la religion de son enfance. Adolescent, il était protestant. Un peu plus tard, son père, Antoine de Bourbon, qui passera ensuite dans le camp des réformés, le force à redevenir catholique. Puis sa mère, Jeanne d'Albret, devenue reine de Navarre à la mort d'Antoine de Bourbon, le ramène au protestantisme. Protestant, il se marie avec Margot la catholique. Catholique, il se fait pour éviter la mort le 24 août 1572. Protestant, il redeviendra lorsqu'il s'évadera de la cour en s'éclipsant discrètement au cours d'une partie de chasse, en 1576.